Nous allons donc commencer la deuxième partie et nous concentrer donc sur votre travail au sein de la Ligue départementale contre le cancer. Dans quelles conditions et avec quelle motivation arrivez-vous à la Ligue contre le cancer?
Eh bien, quand je suis arrivé à Brest, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de cancers à l'hôpital, et je me suis renseigné sur l'incidence des cancers dans le Finistère et l'incidence des cancers dans le Finistère et dans la Bretagne ouest, d'une manière générale, était très importante. À l'époque, le Finistère était le deuxième département de France où il y a eu le plus de cancers, après le Nord-Pas-de-Calais. Et c'est à partir de là, il n'y avait pas encore beaucoup de traitements, que je me suis intéressé au traitement des cancers. Et puis, je suis rentré à partir de 1984 à la Ligue comme un administrateur. Je crois que j'ai été nommé vice-président en 89 et président en 1991. J'ai succédé au professeur Bellet, qui était président auparavant.
Et vous avez été, je crois aussi, à l'origine du premier registre des cancers, dans le Finistère.
Oui, j'ai effectivement créé le registre des cancers digestifs du Finistère. Il n'y avait pas à l'époque beaucoup de registres spécialisés, et à l'heure actuelle, le registre digestif du Finistère est un des trois registres reconnus en France à l'heure actuelle, officiellement reconnus. Et je pense que c'est important. Mais je voulais dire aussi qu'à partir de 1980-85, on a fait à la Ligue des actions de prévention et de dépistage, etc. Si bien que en 2008, le département n'était plus que le, si je peux dire, le 18e département de France où il y avait le plus de cancers. Nous ne sommes pas encore dans la moyenne nationale, mais on se rapproche petit à petit de la moyenne nationale parce que nous avons des actions de prévention, de dépistage et de lutte contre le cancer et de traitements qui sont aussi améliorés.
Alors, quels sont justement les moyens dont dispose la Ligue et quelle est la place privilégiée d'un président? Comment peut-il influencer les directions du travail que va prendre une Ligue départementale par rapport à une autre Ligue départementale?
Eh bien, la Ligue départementale fait partie de la Ligue nationale, c'est sûr, mais nous sommes indépendants dans nos orientations, effectivement. La Ligue ne vit que des dons qu'on lui fait. Des dons, et il n'y a aucune subvention qui vienne de l'État au niveau départemental, ni du niveau régional, ni du Conseil général à l'heure actuelle. Donc, c'est uniquement les dons qui permettent de faire ce que nous faisons. Et les buts de la Ligue sont, je répète, la prévention, le dépistage, l'aide aux malades, la recherche. Et avec ces quatre actions, nous avons fait progresser, je pense, de la lutte contre le cancer dans le Finistère.
Qu'est-ce que vous avez pu en retirer sur un plan personnel, en termes peut-être de lien, puisque c'était un complément de votre activité au sein du CHU? Comment est-ce que les deux activités se complétaient?
Moi, je pense que c'était un complément indispensable, parce qu'à partir du moment où on a un service, de toute façon, on est astreint à des travaux administratifs. J'étais en même temps que chef de service, j'étais au conseil, à un moment vice-doyen de la faculté. J'étais aussi vice-président de l'université. Parce que tout ça permet de conjuguer les efforts, de synthétiser les efforts pour avancer et diminuer l'incidence et la mortalité et améliorer de toute façon les connaissances des gens sur le cancer. Donc tout ceci était en complément, si vous voulez.
Et quelles sont les principales difficultés que vous avez pu rencontrer au cours de ces 20 ans de présidence ?
Les difficultés sont toujours les mêmes, c'est-à-dire de convaincre les gens de faire en sorte que le dépistage, par exemple, soit mieux connu et mieux plus pratiqué, par exemple. Au début du dépistage du cancer du côlon, on avait fait une première expérience, je crois que c'était en 92 ou 93, où on avait associé les pharmaciens. Et à l'époque, le dépistage du cancer du côlon n'était pas admis encore à l'échelon national. Et on avait eu 50% de gens qui avaient participé au dépistage. Et puis ensuite, il y a eu le dépistage organisé officiellement à l'échelon national. Et malheureusement, à l'heure actuelle, le dépistage du cancer du sein est de l'ordre de 50% de la population qui le fait. Et le cancer du côlon, on en est à 35% de la population. Il y a eu une diminution du pourcentage de participants en raison des difficultés de faire l'hémocultes. Il y aura peut-être dans 3 ou 4 mois un nouveau test de dépistage où il suffira d'un seul prélèvement pour valider la recherche microscopique de sang dans les selles. On verra bien, mais tout ça est en progrès.
Et y a-t-il une contribution ou un acte dont vous êtes particulièrement satisfait de sur ces 20 ans de...
Je crois que c'est la progression de la connaissance du cancer, de la possibilité de voir que l'incidence ne diminue pas, mais la mortalité diminue dans le Finistère comme dans les autres départements. Peut-être un peu plus rapidement maintenant dans le Finistère par rapport au point de départ où on était très en arrière.
Et pour en revenir à cette diminution de la participation, quels sont les principaux éléments qui font que la participation baisse? C'est par manque de moyens, c'est par multiplication des sollicitations en termes de santé publique? À quoi attribuez-vous cette baisse?
Je crois que la baisse est liée au fait que pour l'hémocultes, par exemple, c'est difficile. Et à partir du moment où c'est difficile, les gens ne sont pas habitués à faire les prélèvements nécessaires. Donc, pour le cancer du sein, il est évident qu'il n'y a pas de difficulté particulière, mais il y a une espèce d'incompréhension de la nécessité de faire du dépistage, car le dépistage n'est pas connu encore suffisamment pour dépister des cancers au début, au stade curable, alors que si on attend, c'est beaucoup plus difficile. Le cancer du côlon aussi, c'est la même chose. Si on ne fait pas l'hémocultes, le cancer est dépisté à un stade tardif et n'est plus curable ou difficilement curable. Donc c'est ça qu'il faut mettre en tête, et non seulement dans l'esprit de la population, mais aussi dans l'esprit des médecins d'une manière générale, des pharmaciens et de tous les gens qui participent au système de santé. C'est une entreprise médiatique à long terme, mais on va gagner.
Bien. Mais cela montre, même si on entend souvent que le système de soins français est l'un des meilleurs au monde, la place attribuée à la prévention demeure tout de même assez réduite, non ?
Je pense que elle n'est pas suffisamment faite encore. Il est certain que quand on voit, par exemple, que l'alcool est responsable de pratiquement 80% des cancers oraux, 70% des cancers de l'œsophage, la grande majorité des cancers du foie, etc. On ne parle pas assez des effets cancérigènes à long terme de l'alcool, et puis il y a d'autres effets aussi. Le tabac, il y a à peine 20 ans que l'on sait, ou 25 ans que l'on sait que le tabac est responsable de 80% des cancers du poumon. Et on continue les gens continuent à fumer. Il y a toujours beaucoup de tabagisme, y compris le tabagisme passif, ce qui devrait être interdit normalement. Et puis par exemple pour l'amiante, ça fait combien de temps qu'on sait que l'amiante est responsable des cancers de la plèvre? Ça fait 20 ans aussi à peu près. Avant, on ne savait pas. Est-ce que dans les cancers professionnels, par exemple, est-ce qu'on dit que les gens qui sont dans la menuiserie ont plus de cancers ORL que les autres? On ne le dit pas assez, etc. Il y a peut-être aussi des leucémies qui, je le dis peut-être, c'est très probable, qui sont dues à des insecticides. Mais voilà, les travaux continuent là-dessus. Il faut insister sur les possibilités de prévenir le cancer en changeant les comportements. Quand on sait que l'activité physique régulière diminue de 15% aussi l'incidence des cancers dans une grande population, on sait aussi qu'il y a des facteurs génétiques qui sont pas encore étudiés de façon régulière. Par exemple, le syndrome des polypes coliques familiaux existe, et on ne le dit pas assez. Puis il y a d'autres cancers comme ça. Il y a des modifications génétiques qui surviennent, qui ne sont pas décelables au départ, qui surviennent au cours de la vie, mais qui sont liées plus ou moins à des modifications d'ADN que l'on trouve maintenant. Il y a d'autres facteurs. Par exemple, il y a 15 ans, on ne savait pas que le cancer de l'estomac était essentiellement lié à un germe qui s'appelle l'Helicobacter pylori. Et quand il y a un Helicobacter pylori chez quelqu'un qui a un cancer de l'estomac, souvent dans la famille, il y a l'Helicobacter pylori. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas simplement un test respiratoire qui existe pour rechercher l'Helicobacter pylori dans la famille? Et on sait qu'on pourrait diminuer comme ça l'incidence des cancers d'estomac. Et puis, bon, j'arrête là, parce qu'il y a d'autres exemples.